la dernière, j'ai un droit du séminaire école, c'est-à-dire une partie des organisateurs sont présents et présents. Mais par contre, notre programme sera malheureusement un peu tronqué puisque Anne Lopez, qui était prévue pour intervenir, nous étions quatre initialement, est un peu souffrante et ne peut pas être là ce soir. Son excuse et je véhicule nos regrets à cette table monocolore faite de cette absence. Voilà.
Voilà.
L'intitulé que les organisateurs de ce séminaire cette année nous ont imposé. Les organisateurs d'ailleurs ne sont pas tous là non plus. L'intitulé est un intitulé périlleux puisque nous allons tous les trois essayer de parler sur le thème écrire, enfin, je ne sais pas si c'est un thème, mais écrire ce que l'on ne sait pas.
Les transferts après.
Mais non.
Les transferts après, écrire ce que l'on ne sait pas.
Oui, oui.
Ça, c'est le sous-thème.
Oui, le transfert.
Alors, sans déplorer le manque des interventions, je parlerai en premier, comme ça, ce sera fait. Dominique Marin et Albert Ibouillet. Donc, sans déflorer le contenu de nos interventions, on était peut-être plus à l'aise avec le titre qu'avec le sous-titre. Et vous verrez, et vous nous direz bien entendu ce que vous en pensez, puisque soirée garantie sans dispute. Voilà.
C'est bien.
Alors, il me semble que nous pensons, nous avons tendance à penser à ce que Lacan nomme désir de l'analyste, comme si ce désir naissait en quelque sorte sui generis de l'analyse. Manière de penser, à mon avis, une confusion entre condition et cause. Je m'explique. Que l'analyse soit la condition de l'analyste, sans analyse, pas d'analyse. Tout le monde l'accorde, en tout cas depuis que Freud l'a posé noir sur blanc. Ce qui n'a pas été tout de suite, d'ailleurs. Pour autant, l'avènement du désir de l'analyste, ou ce que Lacan appelle le verbum de l'analyste, sont-ils la suite automatique, naturelle, d'une analyse idéale, dans laquelle rien, ni du côté de l'analysant, ni du côté de l'analyste, ne serait venu interférer? Je ne crois pas que Lacan conçoive la chose ainsi. Cela n'est d'ailleurs pas très surprenant, car on ferait de l'analyse, sinon, non plus une condition, mais la cause de l'analyse. Plusieurs indications de Lacan, pas toujours très commentées à ma connaissance, peuvent peut-être nous aider ici. J'en examinerai particulièrement deux. La première se trouve dans l'acte analytique, lors de la séance fermée précédant l'interruption du séminaire, en mai 68, la seconde dans un passage de télévision. Alors, ma première indication, je cite. Une fois que l'analyste y entre avec l'analyse, qu'il cherche dans le cas, dans l'histoire du sujet, où il était, l'analyste, déjà, à tel ou tel moment de l'histoire du sujet. Cela aura un avantage, il saura ce qu'il en est du transfert. Le centre, le pivot du transfert, ça ne passe pas du tout par sa personne, c'est une chose qui a déjà été là. Je lis ce passage de la manière suivante. L'analyste, comme le savent Freudien, était déjà là. Il lui reste à advenir, à se réaliser, si vous préférez, dans l'analyse. Soit. Mais qui est cet analyste? Est-ce que c'est l'analyste présent, assimilé au réel et rétroprojeté en quelque sorte dans le passé de son analysant? Ou est-ce que cet analyste, c'est l'analyste que deviendra éventuellement l'analysant, une fois son analyste de l'analyse rendu à sa réalité propre? Quelques mois plus tard, Lacan continue ainsi. C'est parce qu'il manque toujours quelque chose à votre clavier que l'analysant, vous ne le trompez pas, parce que c'est justement dans ce qui vous manque qu'il va pouvoir faire basculer ce qui, à lui, lui marque le sien. C'est vous qui lui servirez de dépotoir. En introduisant pour la première fois le terme « analysant » dans ce passage, Lacan parle donc d'un manque que l'analyste fait exister et sur lequel l'analysant accommodera pour découvrir le sien propre. Devant. Certes, tout ça est connu. Mais dans cette perspective, alors, l'installation d'un transfert efficace ne sera-t-elle pas concomitante d'une première aperception inconsciente de ce manque? Et celle-ci ne préfigurerait-elle pas elle-même la destitution à venir du sujet supposé savoir? Deux questions. Laissons encore passer quelques mois et on en arrive à ce passage du séminaire d'un autre à l'autre. Tant que l'analyste ne pratique pas la coupure entre la structure inconsciente et la supposition du sujet supposé savoir, c'est-à-dire ce qui a fait le névrosé naturellement psychanalysant, parce que d'ores et déjà constituant en soi-même et avant toute analyse le transfert, point de suspension, Lacan s'arrête. Cette coupure de la phrase interrompue du séminaire résonne avec une coupure qui sera décisive de l'analyste de l'analyse. Cette dernière, nous suggère Lacan, passe entre ce qui relève de la prédisposition analysante à supposer le savoir à l'autre, d'une part, et, d'autre part, cette obstination de certains analysants à s'y retrouver dans l'inconscient, dans la structure, comme Lacan le dira quelques années plus tard dans Télévision. En somme, on retrouve dans ce passage la distinction plutôt posée dans la leçon du 11 janvier 67 du séminaire sur la logique du fantasme en particulier, la distinction entre ces deux guises du pas-je que sont d'une part l'inconscient dont les pensées laissent toute sa chance à l'être et d'autre part le ça, reliquat de la structure dont les pulsations que Lacan rapproche du don cartésien sont d'autant plus évidentes qu'elles sont sans raison. La question de départ est alors de dire quelle est, une fois cette coupure faite, le reste de cette prédisposition analysante. Alors c'est des télévisions que je vais tirer ma seconde indication. Là je cite hein, de nouveau. Au reste, justement, le discours analytique exclut le vous, qui n'est pas déjà dans le transfert, de démontrer ce rapport au sujet supposé savoir qu'est une manifestation symptomatique de l'inconscient. Vous, ici, il me semble, représente l'interlocuteur de convention qui interrogerait Lacan sur la nature de la promesse analytique, comme c'est indiqué quelques lignes plus haut. Alors je lis cette phrase ainsi. Premièrement, pas d'entrée dans le discours analytique sans transfert. Deuxièmement, pas de manifestation symptomatique de l'inconscient sans un certain rapport particulier au sujet supposé savoir. Ce qui n'est pas la même chose que la simple supposition de savoir. Troisièmement, excès pourtant, que ce soit dans l'espace ou dans le temps, du transfert sur toute incarnation de cette supposition du savoir. Quatrièmement, conclusion, solidarité in fine entre persistance dans le discours analytique, ça serait la didactique finie, et interrogation renouvelée de la supposition de savoir, nonobstant la chute de la figure de celui-ci, qu'aura été l'analyste de l'analyse. Alors c'est peut-être, en tout cas ce que je vous propose, c'est peut-être par cette interrogation renouvelée, manière spécifique de jouir de l'inconscient, en tant que l'inconscient nous détermine, que se ferait la voie qui mène de l'analysant à l'analyste. J'en termine avec quelques conséquences pratiques. Premièrement, le moment d'entrée dans l'analyse proprement dite, pour être connecté à l'installation d'une figure déterminée du sujet supposé savoir, n'est peut-être pas tant celui où l'analyste est érigé comme porteur d'une promesse pour l'avenir, que celui où sa présence recule jusqu'en quelques lieux du passé de l'analysant. Deuxièmement, la supposée alternative freudienne entre analyse finie et analyse infinie n'a pas lieu d'être. Le Hund du titre allemand, Freud, Englische Hund, die unendliche Analyse, indique d'ailleurs assez que pour Freud, l'analyse est à la fois pourvue et dépourvue de fin, comme elle est à la fois thérapeutique et didactique. Elle est thérapeutique en tant qu'elle conduira l'analysant à se faire à sa version du symptôme et ou didactique en tant qu'opportunité offerte à l'analyste à l'occasion de chacune des cures qu'il entreprendra de repenser la relation entre transfert et supposition de savoir ou entre ça et inconscient. En ce sens, l'analyse est avec fin dans le premier cas, sans fin dans le second. Troisièmement, en s'intéressant à ce là où il était l'analyste déjà, en vous indiquant cet intérêt, dans le passage de l'acte analytique que j'ai cité en commençant, l'analyse exhume parfois les traces d'un rapport au au sujet supposé savoir, et non pas là encore d'une supposition de savoir, d'un rapport au sujet supposé savoir, capable de résister au virage de l'impuissance à l'impossible. Il faut en effet bien, pour devenir désir d'analyste, que le désir de savoir surmonte le désenchantement. Et donc il ait été marqué, peut-être dès l'origine, de quelques passions plus vitales encore que celle de l'ignorance. De quoi serait faite cette passion? Malgré les précautions requises ici, il me semble qu'un point commun entre les témoignages de passe ayant abouti à nomination pourrait bien être une sorte de prise de position à l'endroit des énoncés de l'autre, dans l'analyse bien sûr, mais aussi avant et souvent très tôt, un style de prise de position qui anticipe sur la séparation lacanienne, en tant que celle-ci n'est rien d'autre qu'une aliénation redoublée. Cinquièmement, de fait, les fictions dont se supportent les sujets sont plus ou moins confortables, plus ou moins supportables. De même qu'il y a le rêve et qu'il y a le cauchemar. De celui-ci, du cauchemar, Martin Ménès donne une formule générale en disant qu'il met en scène, je la cite, « un autre tout-puissant et impuissant à la fois ». En tout cas, le cauchemar a ceci de commun avec l'analyse, qu'il réveille tous deux, ou en tout cas sépare un peu mieux la veille du sommeil. Sixièmement, je m'arrête là-dessus, tout cela suppose que l'analyste, d'avoir repéré là où il était avant, dès la névrose infantile, en quelque sorte, tout cela suppose que l'analyste laisse l'analysant élaborer sa déception, qu'il n'y soit déjà plus avant, c'est-à-dire pas égal. Deux du phallus, peut-être, comme disait Lacan, pour situer l'envers du roc freudien.